sommes toujours dans notre étude du livre de Genèse, et comme nous avons vu la semaine passée avec un pasteur Isaac, l'Éternel a pris la peine de descendre et d'avertir son serviteur Abraham qu'il allait accomplir son jugement sur la ville de Sodome, sur les villes de Sodome et Gomorre. Et il est venu sous la forme de trois anges qui ont révélé ce projet à Abraham, et il s'apprête à aller à Sodome pour se rendre compte du degré de dépravation, de méchanceté de la ville. C'est un passage qui est difficile, mais il a sa raison d'être. Ce passage, je pense qu'il peut nous parler à nous encore aujourd'hui en 2015. Courbons nos têtes un instant. Seigneur Dieu, parle à nos cœurs par ce passage. Comme tu t'es adressé à Abraham il y a de cela plusieurs milliers d'années, tu veux t'adresser à nous aujourd'hui par ta parole qui est vivante. Et si nous pouvons t'entendre nous parler, avoir une communion avec toi, c'est par ton Fils Jésus que nous venons de célébrer par des chants. Nous croyons que ton Fils Jésus est le roi, que nous sommes son peuple. Nous voulons nous soumettre à sa volonté. Alors, par ton Saint-Esprit, touche nos cœurs, ouvre les yeux de notre intelligence et parle-nous, conduis-nous, au nom de Jésus. Amen. On va y tourner dans Genèse chapitre 19. Verset 1. Genèse 19, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 29. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Puis il leur dit, « Mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin. Il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Et Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas de mal. Voici, je vous en prie, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous en prie, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Et ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu tout seul comme un immigrant et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Puis, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les anges étendirent la main et firent entrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Des gendres, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit, car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles, et il leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme des deux filles qui se trouvent ici pour ne pas succomber avec la ville fautive. » Mais il s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit, « Échappe-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. » Et Lot leur dit, « Oh non, je t'en prie, Seigneur, je t'en prie, ton serviteur a obtenu ta faveur et tu as montré la grandeur de ta bienveillance à mon égard en me conservant la vie. Mais moi, je ne puis m'échapper vers la montagne. Sans que le malheur s'attache à moi, je mourrai. Je t'en prie, voici cette petite ville. Elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'échapper jusque-là. N'est-elle pas petite et que je reste en vie? » Alors il lui dit, « Voici, par considération pour toi, en cette circonstance, je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. Vite, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu n'y sois arrivé. » Et c'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu venant de l'Éternel. Et il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Et il porta les regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le pays de la plaine et il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et il retira Lot du cataclysme lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Il existe une philosophie dans le monde qui est très répandue où la notion du bien et du mal est relative à chacun. Chacun est juge de déterminer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien de ce qui est mal. C'est relatif au contexte dans lequel on vit, peut-être le contexte de la culture, le contexte de la société ou de l'époque dans laquelle on vit. Le bien ou le mal serait relatif. D'ailleurs, il n'existerait pas de bien absolu ou de mal absolu. Ce serait simplement une question de convention accepté par la majorité. Mais le passage qu'on vient de lire nous montre clairement que ce n'est pas une question de relativité. Le bien ou le mal n'est pas une question d'opinion ou de convention de la majorité. Le bien ou le mal, c'est ce que Dieu déclare être bien ou être mal. Le bien et le mal existent. Et il y a une réelle différence entre celui qui pratique le bien et celui qui pratique le mal. On voit un grand contraste ici entre le comportement de Lot et le comportement des habitants de Sodome. Il y a une différence entre le comportement d'un juste, qui est réellement juste, et d'un injuste. Le fait que Lot était à la porte, assis à la porte de la ville, seul, c'est en faveur de Lot, parce que c'est à la porte de la ville que se trouvaient les hommes anciens qui voulaient faire du bien, qui pouvaient tenir conseil, prendre soin des malades, secourir les veuves, les pauvres, accueillir les étrangers. C'est à la porte de la ville que se tenait la sagesse. Mais là, il n'y avait plus personne. Il y avait juste Lot qui était assis à la porte. La ville était corrompue au point où Lot se trouvait seul. Puis là, quand il a vu les étrangers arriver, non seulement il a couru vers eux pour les accueillir, mais il a pu discerner qu'ils étaient les anges de l'Éternel. Ils étaient envoyés par Dieu et il s'est prosterné devant eux. Ils étaient des représentants de l'Éternel Dieu lui-même, sous une forme humaine. C'est ce que les habitants n'ont pas pu voir. Eux, ils les ont appelés les hommes. Ils n'ont pas su discerner qu'ils étaient les envoyés de Dieu, que c'était l'Éternel qui descendait vers eux. Ils étaient comme aveugles, un aveuglement spirituel. Et justement, en signe de cet aveuglement spirituel-là, les anges les ont frappés d'aveuglement. Alors qu'ils cherchaient à faire du mal, ils sont devenus aveugles physiquement. Lot, lui, au contraire, a montré de l'hospitalité, qui est une valeur chère pour Dieu. Il a permis que les étrangers viennent, qu'ils se reposent sous son toit. Lorsqu'il dit « Vous laverez vos pieds », c'était une convenance, c'était une marque vraiment qu'on portait attention aux voyageurs qui étaient là. qui voyageait en sandales, qui avait les pieds sales. Il leur a fait même un festin. Il n'a pas servi juste des toasts avec du beurre de peanut. Un grand festin qu'il leur a servi. Même, il n'avait pas été averti à l'avance que des visiteurs venaient chez lui. Il a fait preuve d'une grande hospitalité. Il les a accueillis. Le comportement de Lot, ça contraste avec les habitants de la ville. Eux, ils n'ont pas accueilli. Au contraire, ils voulaient leur faire du mal. Ils ne connaissaient même pas ces deux hommes-là. La seule idée que la ville avait, les habitants de la ville avaient en tête, c'était de leur faire du mal. Lorsqu'il les dit, « Où sont les deux hommes qui sont venus chez toi? Fais-les sortir afin que nous les connaissions. » Les connaître, c'est une expression, comment on dit ça? C'est pour adoucir, un euphémisme, pour dire qu'ils voulaient pratiquer des actes sexuels sur eux. Et même vu que c'était des hommes qui étaient là et qui criaient pour qu'ils fassent sortir les hommes, c'était des actes d'homosexualité forcés sur eux qu'ils voulaient commettre. D'ailleurs, ces pratiques-là, c'est ce qui a donné le mot sodomie. Ça vient du péché qui régnait à Sodome. Puis si les anges n'étaient pas intervenus, ils auraient non seulement fait du mal sur eux, là, mais ils auraient fait du mal à Lot et à sa famille. Probablement qu'ils auraient violé, battu, peut-être battu à mort. Mais on voit toute la méchanceté, l'absence de pitié, l'absence d'hospitalité. Puis même frappés d'aveuglement, lorsqu'ils sont devenus aveugles parce que les anges sont intervenus, ils cherchaient encore la porte. C'est en vain qu'ils n'ont pas pu la trouver, là, mais on voit comment, à quel point ils étaient poussés par une rage démesurée. Mais Dieu est venu prendre, quand même s'il le savait, Dieu, le péché de la ville, il a pris la peine de venir pour voir, prendre compte du degré de méchanceté dans la ville. Et là, ils étaient trois anges qui sont venus voir Abraham. S'ils étaient seulement deux à Sodome, certains pensent que c'est pour montrer que peut-être le troisième était à Gomorre pendant ce temps-là, parce qu'il s'est passé l'instant d'une nuit. Et Dieu voulait montrer qu'il ne punit pas d'innocents. Il a vraiment pris le pouls là, de Sodome et de Gomorre pour voir le degré de méchanceté. Mais en fait, c'est pour que nous, on soit convaincus que Dieu n'a pas condamné d'innocents, n'a pas fait punir d'innocents. Le texte ici semble indiquer que la faute, que les fautes commises à Sodome étaient très graves, même plus graves que d'autres fautes. Le texte semble indiquer qu'il y aurait des péchés plus graves que d'autres. Mais on entend souvent qu'aux yeux de Dieu, tous les péchés sont égaux. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'il y a une gravité dans les péchés ou tous les péchés sont égaux? Mais je pense que ces deux notions-là sont vraies. Premièrement, tous les péchés sont égaux lorsqu'il s'agit de catégoriser les êtres humains. Peu importe le péché qu'on a commis, on est catégorisé parmi les criminels. Aux yeux de Dieu, il suffit d'enfreindre un commandement, le plus petit commandement de sa loi, et on devient coupable de toute la loi, comme il est dit dans Jacques. Peu importe la gravité du péché, peu importe si c'est un péché qui a fait du tort à beaucoup de gens, ou seulement à soi-même, aux yeux de Dieu, le résultat est le même, on est classé parmi les criminels. Un exemple, c'est si on commet un acte criminel ici au Canada, automatiquement, on a un casier judiciaire ou un dossier criminel. Et lorsqu'on se présente aux douanes américaines, le douanier va voir sur son ordinateur, casier judiciaire, il n'est même pas obligé d'aller voir c'était quoi la raison, le crime qui avait été commis, si c'était juste un petit vol à l'étalage ou si c'était un meurtrier en série. Juste le fait qu'il y ait un casier judiciaire associé à cet individu-là, il est en droit de refuser l'accès aux États-Unis. Peu importe la faute qui a été commise, on est catégorisé parmi les criminels si on a un casier judiciaire. Mais pour Dieu, toute faute à sa loi nous catégorise parmi les criminels. Et Dieu agit comme un douanier qui refuse l'accès à son pays, à son royaume qui est pur de toute saleté. Il n'y a jamais un seul crime qui s'est fait dans son royaume. Et toute personne qui a un casier judiciaire ne peut pas entrer dans son royaume. Donc, dans ce sens, tous les péchés sont égaux. Mais tous les péchés ne sont pas égaux quant à leur gravité aux yeux de Dieu. Il y a des péchés qui sont en horreur à l'Éternel, qui sont une abomination. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils ont des conséquences plus lourdes. C'est Dieu qui déclare que c'est en horreur. Et souvent, les péchés qui sont en horreur à l'Éternel, qui sont considérés comme plus graves, qui nous sont décrits, ne sont pas la source de plusieurs conséquences, ils sont plutôt le résultat d'une dégénération, d'un niveau de méchanceté qui s'accumule. Le cheminement dans le mal. Et ces péchés-là sont comme des signes, des emblèmes du degré de gravité dans lequel on est enfoncé. Dans Lamentation, chapitre 4, verset 6, il est dit « La faute de la fille de mon peuple est plus grande que le péché de Sodome, qui fut renversé en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. » Ce qu'ils avaient commis à cette époque-là, le peuple d'Israël, c'est qu'ils avaient rejeté leur Dieu, ils avaient sombré dans l'idolâtrie, les sacrifices humains, toutes sortes d'horreurs à l'Éternel. Et Dieu les a comparés même à Sodome. À plusieurs reprises, la Bible cite certains péchés qui sont graves aux yeux de Dieu. Et un péché qui est cité, c'est l'homosexualité. L'homosexualité est souvent, à plusieurs reprises dans la Bible, montrée comme un péché qui est comme l'emblème, un indicateur du degré de dépravation d'une société. Puis dans le cas de Sodome, c'est justement cet exemple-là qui est donné. Dieu aurait pu choisir de montrer plusieurs exemples de la méchanceté de la ville. C'est ce péché-là qui a été montré. Leur désir d'avoir des rapports sexuels, homosexuels, avec les visiteurs. Dans Jude 7, qui commente ce passage-là, il dit « De même, Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche, et recherchèrent des unions contre nature. Ils sont donnés en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. » Puis plus tard, Dieu va donner sa loi. Il n'a pas encore donné sa loi, mais il l'avait mis dans le cœur de l'homme de toute manière. On sait quel est le bien et le mal. Mais plus tard, il va donner sa loi au peuple d'Israël. Et dans sa loi, il peuple les péchés, certains péchés du domaine sexuel, au même niveau que l'idolâtrie, que les pratiques de sorcellerie. Il est dit dans Lévitique 18, 20 à 24, « Tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. » Donc, l'adultère. « Tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch. Tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec aucune bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez pas par aucune de ces pratiques, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je chasse devant vous. Même on lit au chapitre 20, donc deux chapitres plus tard dans Lévitique, que ces péchés-là qui sont listés sont soumis à la peine de mort. Ceux qui les pratiquent devaient être punis de mort. Ce n'est pas populaire aujourd'hui, surtout dans notre société québécoise, de dire que l'homosexualité est mal. Même, on rencontre de plus en plus d'opposition. Certains vont jusqu'à dire que c'est une offense envers les droits, c'est presque une attaque envers les homosexuels qui mérite d'être arrêtée par la police même, si on ose dire que l'homosexualité est mal. Certains vont jusqu'à dire qu'on devrait enlever le droit de parole à ceux qui osent dire que l'homosexualité est mal. Certains proposent même qu'on enlève le droit de permis de culte à une église qui prêche cela. Ça va en venir à ça éventuellement. Mais ce qu'on affirme n'est pas une opinion personnelle. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est Dieu qui le déclare. Dieu dit que c'est mal, c'est pour ça que nous croyons que c'est mal. Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament et il l'a renouvelé dans le Nouveau Testament. On peut être sûr que c'est encore valide aujourd'hui. Tournez avec moi dans Romains chapitre 1, s'il vous plaît. Romains, dans le Nouveau Testament, tout de suite après Actes, chapitre 1. Romains 1, on va lire à partir du verset 24. Bien, il est dit juste avant que les hommes ont rejeté Dieu, ils ont tenu cette vérité-là comme captive, cachée, le fait que Dieu existe. Ils ont abandonné sa volonté. Ils ne lui ont pas donné l'honneur auquel il a droit. Et à cause de cela, verset 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice. Ils sont rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Ce texte ici corrige plusieurs fausses pensées qu'on peut avoir. Certains vont sortir l'argument que l'homosexualité est forcément bien pour celui qui est né avec cela. C'est un désir, c'est inné chez lui. Ça ne peut pas être mal parce qu'il suit le désir profond de son cœur. Mais ce n'est pas parce qu'une personne suit sincèrement le désir de son cœur qu'il est en train de faire le bien. Bien au contraire. C'est du cœur que viennent toutes les souillures. Jésus l'a dit dans Matthieu 15, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, adultères, prostitution, vol, faux témoignages, blasphème. » C'est pas parce qu'on est convaincu qu'une chose est bonne pour nous que c'est bon. Parce que notre cœur est tortueux. Notre cœur nous pousse au mal. On entend aussi l'argument que ça ne peut pas être mal parce qu'ils sont nés comme ça, physiquement. Ceux qui ont un penchant pour l'homosexualité sont nés comme cela. Là-dessus, on pourrait en débattre. Je ne suis pas convaincu que tous les homosexuels sont nés comme cela. Mais si on prend pour acquis qu'ils sont nés comme cela, on est tous nés avec des penchants, différents penchants. Pas nécessairement dans le domaine sexuel, mais certains, oui. Combien d'hommes ont un penchant pour avoir plusieurs femmes, pour la polygamie? Il y en a plusieurs, là. Est-ce que ça les autorise à pratiquer cette chose-là? Est-ce que c'est possible même qu'un homme, il y a un dérèglement, qu'il soit un penchant naturel pour la pédophilie? Peut-être. Est-ce que ça l'autorise? Est-ce que ça excuse un comportement de pédophilie? On sait très bien que des gens sont, par nature, plus portés à la violence. Même on peut le voir chez des jeunes enfants, là. Tu leur piles sous le pied, puis ils veulent te donner un coup de poing. Puis d'autres sont plus doux. Mais ceux qui sont plus colériques ou portés à la violence, est-ce que ça excuse un comportement de violence qu'ils pourraient avoir? Non. Ceux qui sont plus portés naturellement à être orgueilleux. Moi, j'en suis un. Je lutte contre ça. C'est pas facile quand on est aussi... c'est pas vrai. Je vais pas embarquer là-dedans. Non, mais je lutte contre ça, puis je le sais que dans ma nature, c'est une de mes faiblesses. Est-ce que ça excuse un comportement d'orgueil que je pourrais avoir? Non. Certains, ça peut même être un trait dans une famille ou dans un peuple. Certains vont avoir un penchant naturel vers la paresse. Ils se prennent pas en main, ils n'ont pas de discipline, ils sont nés comme ça. Est-ce que ça excuse un comportement de paresse? Non. Donc, ce n'est pas parce qu'on est né avec un penchant naturel vers quelque chose qui est mal que ça devient bien. Le monde est corrompu et notre cœur est corrompu dès la naissance. Peu importe, même si l'ensemble de la population détermine qu'une chose est bonne. On le voit dans l'histoire que la population s'est constamment trompée sur ce qui est bon. Et ça a causé sa perte, ça a causé la chute de plusieurs empires, ça cause des troubles, c'est ce qui cause des guerres dans le monde. Peu importe si la majorité pense qu'un comportement est bien, si la justice de Dieu dit que c'est mal, c'est mal. Et c'est ce que les humains devraient craindre, justement, la justice de Dieu. Dieu ne va pas ajuster sa justice ou son code, sa loi, en fonction de ce que l'on croit être bon ou mauvais. C'est nous qui allons devoir s'ajuster. Et si on ne s'ajuste pas, à la fin vient le jugement. La justice de Dieu apporte justement un terrible jugement. Et ce qui est arrivé à la ville de Sodome sert d'exemple. On voit dans l'exemple de Sodome que c'est Dieu lui-même qui a puni. Ils n'ont pas seulement été victimes des conséquences de leur mauvais choix. Il est dit que c'est Dieu qui a envoyé le feu, le soufre pour détruire la ville. L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes du sol. Donc, c'est vraiment le feu venant de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui se charge du jugement. Et lorsque Dieu applique son jugement, lorsque c'est le moment de juger, il est trop tard. Il est trop tard pour toute repentance. Lorsque le feu arrive, il est trop tard. Et c'est une image pour le jugement qui attend ce monde ici dans l'ère après Jésus-Christ. Lorsqu'une personne meurt, lorsqu'une personne décède, il est trop tard pour se repentir. Il arrive tout à coup à l'évidence, le Dieu créateur existe, il est un juge, j'ai enfreint sa loi. Mais il est trop tard. Et la prochaine étape qui l'attend, c'est le jour du jugement. Le jugement de Dieu, justement, sert d'exemple. Le jugement qui a été appliqué à Sodome sert d'exemple pour le jugement dernier, à la fin des temps, au jour du jugement. Dans Luc 17, 28 à 30, Jésus dit, « Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, ils achetaient, ils vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. » On est dans une période de patience et tous peuvent être avertis. Mais lorsque le jour viendra, il sera trop tard. Et c'est Jésus lui-même, Jésus qui est Dieu, c'est Jésus lui-même qui va appliquer le jugement. Mais aussi grand et terrible que le jugement de Dieu puisse paraître, Dieu épargne le juste. Il va arranger les événements pour que le juste soit épargné. On a vu toutes les choses que Dieu a mises en place pour épargner Lot. Et Pierre nous le dit dans 2 Pierre 2, versets 6 à 10. « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot, le juste, qui était profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux était torturé jour après jour. Son âme était torturée à cause des iniquités qu'il voyait et entendait. » Donc, si Dieu a sauvé Lot, c'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout, dans un appétit de souillure, qui recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Encore une fois, les plaisirs charnels, le péché sexuel est montré en exemple d'un rejet, d'une rébellion à Dieu. Ils sont présomptueux, arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Donc, Lot a été sauvé parce qu'il était juste. Il est nommé parmi les justes. Mais ce qui est étonnant dans le récit, c'est que Lot a été sauvé, mais il n'est pas montré comme étant un homme parfait. Oui, il est très différent des hommes de Sodome et Gomorrhe. Le contraste est évident. Il est vraiment injuste. Un juste, ça existe. Et il est différent des injustes. Mais il n'est pas parfait. Son attitude, on pourrait lui reprocher son attitude. Lorsqu'il a vu que les habitants voulaient s'en prendre aux hommes, il a livré ses deux filles vierges. Faites ce que vous voulez d'elles. C'est sûr que ce n'était pas de bon cœur qu'il le faisait, mais je ne suis pas sûr que c'était une bonne chose, là. Puis plus tard, on va voir aussi les conséquences de que dans sa maison, ce n'était peut-être pas la sainteté absolue. On voit ses filles, on va voir la semaine prochaine, qui couchent avec lui, qui commettent l'inceste avec leur père, comme si de rien n'était. Donc, Lot n'est pas présenté comme un homme parfait. Et même s'il subit tous ces problèmes-là, d'être à Sodome, c'est parce qu'il a choisi lui-même d'aller habiter là. Il a été attiré, il a succombé à la tentation des plaisirs du monde. Pourtant, il est appelé un juste. Mais si Lot est sauvé par Dieu, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Et Lot le reconnaît d'ailleurs. Quand il s'adresse à Dieu, il est reconnaissant envers son Dieu. Il ne mérite pas une aussi grande grâce d'avoir la faveur de Dieu. On voit que Dieu a de la considération pour Lot. Même il accepte, il lui avait dit d'aller sur la montagne, il accepte de l'envoyer dans une petite ville parce que Lot avait trop peur d'aller dans la montagne seul. Il pensait mourir. Dieu arrange les événements pour que Lot puisse aller dans la ville. Dieu pardonne les fautes de Lot parce qu'il est son humble serviteur. Parce qu'il n'est plus compté dans le groupe des criminels, même s'il a commis des péchés, même s'il n'est pas parfait. Son dossier criminel, son casier judiciaire a été enlevé. C'est pour ça que Lot peut être appelé un juste. Il est un fidèle serviteur de Dieu. Il a la foi en Dieu. Ce que Dieu lui a annoncé, Lot le croit. Il sait très bien que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Il a confiance en lui. Il sait que Dieu va l'épargner aussi. Cette même grâce était accessible aux habitants de Sodome, même si ce n'est pas dit noir sur blanc, mais il y avait un juste qui habitait avec eux. Il y avait une maison où l'Éternel était adoré, servi, et les gens le connaissaient. Lorsque Lot a reçu ses visiteurs, ils se sont tous attroupés autour de sa maison. Il était connu dans la ville. Même les gens se sentaient coupables, se sentaient jugés par lui. Il a simplement dit, ne faites pas de mal à ces deux hommes. Puis il a dit, tu nous juges, toi? Puis il voulait le tuer à cause de cela. Donc, il savait très bien que Lot était injuste. Ils avaient eu l'occasion de se tourner vers ce Dieu éternel, ce Dieu qui les faisait sentir coupables. Puis ils ne l'ont pas fait. Ils se sont endurcis. Personne ne s'est humilié pour avouer ses fautes. J'étudiais récemment dans mon cours d'hébreu le récit de Jonas. Et c'est frappant le parallèle entre la ville de Sodome et la ville de Ninive. Ninive est montrée comme une ville terrible avec des péchés énormes dont la méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Il est dit dans Jonas 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » C'est une expression très semblable pour dire que la méchanceté de Sodome est montée jusqu'à l'Éternel, à la connaissance de l'Éternel. Et dans Jonas 3, 4 à 10, il dit « Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait en ces mots, « Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. » C'est la même expression que pour Sodome. Ninive sera détruite. Et le jour même, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Exactement la même expression que dans le récit qu'on vient de lire de Sodome. Les plus grands jusqu'aux plus petits. C'est-à-dire les jeunes, les vieillards, les gens de la basse classe, les nobles. Toute la ville de Ninive. Et on apprend qu'ils étaient 600 000 hommes à Ninive. Donc, je ne sais pas combien, là. En tout de la population. Donc, peut-être que je me trompe. Je pense qu'ils étaient 600 000 au total. En tout cas, c'était une très grande ville. Mais toute la ville s'est humiliée le même jour. Et on voit le contraste avec Sodome où toute la ville s'est rebellée. Il est dit que toute la ville, de tous les quartiers, se sont assemblés autour de la maison de Lot. La nouvelle parvint au roi de Ninive il se leva de son trône, il ôta son manteau, il se couvrit d'un sac, il s'assit sur la cendre. Et il fit crier ceci dans tout Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent rien et ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret? Et s'il ne reviendra pas de son ardente colère de sorte que nous ne périssions pas? Alors Dieu eut pitié. Il renonça au mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. C'est l'humilité qui a été la grande différence entre les gens de Sodome, les gens de Ninive. Les gens de Sodome avaient une absence totale d'humilité. Ils n'ont pas avoué leur faute. Les gens de Ninive se sont humiliés, ont reconnu qu'ils étaient pécheurs et Dieu les a pardonnés le jour même. Personne n'est sauvé parce qu'il a atteint un degré acceptable de justice dans sa vie. Lot n'était pas compté parmi les justes parce qu'il avait réussi à atteindre un degré de sainteté. Personne ne va atteindre un degré de sainteté suffisamment élevé pour que Dieu le compte parmi les justes. Même si à partir d'aujourd'hui, on réussissait à ne plus pécher pour le reste de notre vie, les fautes qu'on a déjà commises restent attachées à nous. Personne n'est compté parmi les justes à cause du degré de sainteté qu'il peut atteindre. Un seul péché suffit à avoir un casier judiciaire aux yeux de Dieu. Pour être compté parmi les justes, il faut s'humilier, comme les gens de Ninive l'ont fait. Et Dieu nous pardonne. On reconnaît nos torts, on supplie pour son pardon, en croyant que si on ne le fait pas, on mérite la punition qu'il a annoncée. Et alors Dieu nous pardonne, il nous compte parmi les justes. Et on peut croire que Lot l'avait fait. Lot avait foi en son Dieu, il s'était humilié. Il était compté parmi les justes. La femme de Lot, par contre, il semble qu'elle n'était pas comptée parmi les justes. Peut-être qu'elle adoptait un comportement de juste, elle vivait sous le même toit que son mari. Peut-être qu'elle avait une vie certainement plus pieuse que les autres habitants dans Sodome. Mais lorsque le moment de l'épreuve est survenu, elle s'est tournée vers la ville, elle a désobéi à l'ordre de Dieu. C'est vraiment un signe pour montrer qu'elle était attachée à cette ville. Elle était attachée au plaisir du monde et non pas à Dieu. Et nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et servir Mammon, servir le monde. C'est un ou l'autre. Et dans son geste, elle a dévoilé qu'elle n'était pas attachée à Dieu. Elle n'était pas sous la grâce de Dieu. Même si elle était plus juste que les gens de Ninive, de Sodome, ça ne l'a pas épargnée, elle n'était pas comptée parmi les justes. Celui qui est sous la grâce de Dieu, c'est celui qui choisit de suivre Jésus. Aujourd'hui, là, si on veut s'humilier, ça veut dire de suivre Jésus, qui nous dit de marcher dans cette vallée-là, vers l'objectif, sans se retourner derrière. Jésus dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu, il n'est pas digne du royaume de Dieu. » Il dit aussi dans Matthieu 16, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Nous sommes dans l'époque des derniers jours, des derniers temps. Le prochain événement qui va arriver, c'est le Seigneur Jésus qui va venir. Ce passage nous invite à nous repentir. Repentons-nous, écoutons la voix de l'Éternel qui veut qu'on s'humilie. Si vous ne l'avez jamais fait de votre vie, vous repentir. Il suffit que vous vous repentiez et vous serez compté parmi les justes. Dieu va prendre votre casier judiciaire et il va l'effacer. Lorsque vous vous présenterez devant le douanier du paradis, il va vous laisser entrer parce que vous serez pur, vous n'aurez pas de tâche, pas de dossier criminel. Se repentir, ça veut dire premièrement d'avouer ses péchés à Dieu. Avouer que ce qu'on a fait est mal. Même si on a cru pendant toute notre vie que c'était bien, même si les gens autour de nous disent que c'est bien, on sait que c'est mal, ou on vient de le découvrir dans la Bible, on l'avoue à Dieu. Et on implore son pardon. On crie à l'Éternel, c'est ça, se repentir. Et la vraie repentance nous amène à l'étape aussi de vouloir s'engager à ne plus le faire. À partir du moment où on se repent pour la première fois, sincèrement, notre objectif de vie change. Maintenant, on vise de suivre Jésus, d'aller à la montagne, de fuir les passions du monde, de fuir la colère de Dieu. Et même si on tombe, on se relève, notre objectif reste le même, de suivre Jésus. Ça, c'est la vraie repentance. Et si on le fait, on va être compté parmi les justes. Et Dieu nous dit qu'il n'y a, dans Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On sera épargné du feu, de la colère de Dieu. Parce que Jésus joue le même rôle qu'Abraham a joué. On a vu la semaine passée qu'Abraham a été un intercesseur pour la ville de Sodome et pour les justes qu'il pouvait y avoir dans cette ville-là. Et il est dit que Dieu, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et il retira Lot du cataclysme. Dieu n'aurait pas puni le juste, mais il a pris la peine de montrer qu'il a sorti un juste de cette ville-là en réponse à la prière d'Abraham, qu'il avait supplié qu'aucun juste ne périsse. Mais Jésus, aujourd'hui, joue ce même rôle-là. Il est un Abraham pour nous. Il est devant Dieu, et lorsqu'on tombe, lorsqu'on ment, lorsqu'on tombe dans l'orgueil, même lorsqu'on tombe dans un péché du domaine sexuel, lorsqu'on commet une chose affreuse, on a un avocat auprès du ciel, dans le ciel, auprès de Dieu. Un avocat qui dit à notre Père céleste, « Oui, ton enfant vient de pécher ici, mais regarde, il n'a pas de casier judiciaire, parce que tous ses crimes ont été payés à l'avance. Sa dette est à zéro. » Et il rappelle à notre Père céleste que notre nom est dans le livre de la vie. Nous n'avons plus de condamnation. Si vous vous êtes déjà repenti une fois, vous êtes compté parmi les justes. Mais la repentance est une attitude d'humilité qu'on doit maintenir toute notre vie. Non seulement on est sauvé par la grâce, notre casier judiciaire est enlevé, mais ensuite on vit par la grâce de Dieu. Et la repentance est une chose qu'on devrait faire à chaque fois qu'on se rend compte qu'on a péché. Notre devoir est d'être un juste parmi les injustes. D'être un homme pieux, de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous, de ne pas être un ingrat face au grand prix que Dieu a payé pour nous sauver. La repentance, c'est quelque chose à pratiquer quotidiennement. Comme Jésus nous l'enseigne dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Une prière qu'on peut réciter à chaque jour. Courbons nos têtes un instant. Merci Seigneur pour ta grâce qui dépasse notre entendement. Ta grande patience aussi avant d'accomplir ton jugement. Tu as patienté pendant des siècles avant de juger la nation de Sodome et de Gomorre. Tu as averti le peuple d'Israël pendant des siècles aussi avant de provoquer la destruction de ce royaume. Et tu avertis ce monde présentement depuis déjà 2000 ans que ton jour, le jour du jugement va venir. Mais dans ta patience, tu attends, tu es plein de compassion, tu fais grâce. Donne-nous, Seigneur, d'être des prophètes parmi les injustes, d'avertir les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche, comme les Ninivites à l'époque. Et donne-nous d'être une lumière dans les ténèbres. Donne-nous de marcher d'une manière digne, d'être pieux, d'être des justes parmi les injustes. Pardonne-nous nos offenses. Et dévoile à nos cœurs les péchés que nous commettons et que sans s'en rendre compte même, ou les péchés pour lesquels nous sommes devenus habitués, pour lesquels nous avons endurci notre cœur. Montre-nous le chemin sur lequel nous marchons pour que nous retournions sur le chemin droit, avec comme objectif d'être parfait comme tu es parfait. Au nom de Jésus. Amen.